Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Émilie Valla, prise de son, Jean-Guilain Meige.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous entamons aujourd'hui la toute dernière série de la saison et c'est l'économie du voyage que nous allons explorer cette semaine. Le tourisme mondial a connu une nouvelle année record en 2018. Le nombre de touristes internationaux a augmenté de 6% pour atteindre 1,4 milliard. Un chiffre à comparer aux 25 millions de voyageurs qui parcouraient le monde en 1950. Les touristes sont toujours plus nombreux et les dégâts qui leur sont associés également. Les images du paquebot de croisière ratant son accostage à Venise ont relancé le débat sur les dérives du tourisme de masse. De nombreuses villes européennes ont d'ailleurs pris des mesures pour tenter d'endiguer le flux de visiteurs dans un contexte de concurrence accrue entre les destinations. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler du tourisme mondialisé en compagnie de Jean-Pierre Lozato, ancien directeur du pôle de projets touristiques professionnels à Paris 3 Sorbonne, administrateur de SOS Grand Bleu et auteur de Management du tourisme, territoire, offre et stratégie paru chez Pearson. Avec nous également en duplex d'Aix-en-Provence, Emeline Hatt, maîtresse de conférences en aménagement et urbanisme au laboratoire Lieu de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université Aix-Marseille. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho. Jean-Pierre Lozato et Emeline Hatt, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va commencer cette émission par une petite lecture.
Je passais ma dernière journée de congé dans différentes agences de voyage. J'aimais les catalogues de vacances, leur abstraction, leur manière de réduire les lieux du monde à une séquence limitée de bonheur possible et de tarifs. J'appréciais particulièrement le système d'étoiles pour indiquer l'intensité du bonheur qu'on était en droit d'espérer. Je n'étais pas heureux, mais j'estimais le bonheur, et je continuais à y aspirer. Selon le modèle de Marshall, l'acheteur est un individu rationnel, cherchant à maximiser sa satisfaction compte tenu du prix. Le modèle de Veblen, par contre, analyse l'influence du groupe sur le processus d'achat, suivant que l'individu veut s'y identifier ou au contraire s'y soustraire. Le modèle de Copland démontre que le processus d'achat est différent suivant la catégorie de produits-services. Achat courant, achat réfléchi, achat spécialisé. Mais le modèle de Baudrillard-Becker estime que consommer, c'est aussi produire des signes. Au fond, je me sentais plus proche du modèle de Marshall. De retour à mon travail, j'annonçais à Marie-Jeanne que j'avais besoin de vacances.
Voilà, c'était un extrait de Plateforme de Michel Houellebecq, publié en 2001 et lu ici par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Que vous inspire ce texte pour commencer, Jean-Pierre Lozato ?
Eh bien, il résume assez bien les différentes possibilités que l'on a lorsqu'on est touriste. Mais il m'arrive souvent de dire que quand on a une satisfaction, par exemple, dans un hôtel ou une activité qui est de l'ordre de 70%, on est déjà au top. Alors, je veux dire par là que tout est différent selon les individus, selon les lieux, selon les moments, tout ce qui peut se passer. Et on est toujours un petit peu à la recherche peut-être d'un paradis qui n'est pas toujours à portée. Voilà, d'enfant, Houellebecq avait raison de dire que Marshall, c'est peut-être le plus proche.
Ce texte de Houellebecq est emblématique du grand marché qui est devenu le tourisme mondialisé, Emeline Hatt.
Oui, d'une certaine façon, il est assez emblématique. Je trouvais notamment la phrase qui consistait à dire que consommer, c'est aussi produire des signes, très intéressante. Et on voit effectivement ici le lien entre le territoire et le tourisme, avec un territoire qui est à la fois ressource première du tourisme, constituante, composante, et également résultante du tourisme à partir des représentations sociales qui vont être véhiculées et qui vont contribuer à transformer l'espace.
Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que le tourisme, qui représente aujourd'hui à peu près 10% de la richesse mondiale, ce tourisme ne cesse de croître depuis 70 ans, Emeline Hatt.
Oui, on a des chiffres très, très importants qui sont produits notamment par l'Organisation mondiale du tourisme ou l'OCDE, où comme vous l'avez rappelé en introduction, on est à 1,4 milliard d'arrivées de touristes internationaux en 2018, avec une projection de 1,8 milliard en 2030, et avec des secteurs, des territoires particulièrement touchés, comme la Méditerranée, qui est la première région touristique du monde, avec 300 millions d'arrivées de touristes internationaux et 30% du nombre total de touristes dans le monde.
On parle de touristes internationaux, c'est-à-dire ce sont des touristes qui ont passé au moins une nuit à l'étranger, c'est cela ?
Oui, et sur le calcul, on va souvent les comptabiliser en termes de nombre d'arrivées aux frontières pour les touristes internationaux. Il y a d'autres calculs autour du nombre de nuitées ou de séjours dans les hébergements touristiques. Il y a vraiment des débats autour des chiffres et des statistiques dans ce secteur.
C'est une croissance, Jean-Pierre Lozato, qui devrait se poursuivre. On parle de 1,8 milliard de visiteurs étrangers en 2030.
Oui, enfin, je ne sais pas si ça va se produire, parce que ça voudrait dire que ce serait la majorité de la population mondiale, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que la croissance a été continue, c'est vrai. Maintenant, comme le disait ma collègue, les statistiques ne sont pas toujours très sûres, exactes, mais ça n'empêche pas que le train de croissance, il est là, quoi. Et si on ajoutait, parce qu'on parle toujours de tourisme international, comme vous disiez, c'est des gens qui passent dans les frontières, mais si on ajoutait le tourisme intérieur, c'est-à-dire les gens qui ne vont pas forcément dehors, c'est-à-dire qu'en fait, le nombre de touristes est beaucoup plus élevé, de fait.
Et les retombées économiques qui vont avec.
Les retombées économiques sont extrêmement importantes.
Ce qu'on observe, c'est que le tourisme international a connu une croissance de 6% en 2018 et que c'est plus que la croissance économique mondiale et que le commerce mondial de marchandises. Comment on explique, Emeline Hatt, une vitalité pareille de ce secteur ?
Alors les facteurs sont multiples pour expliquer ce phénomène. On peut par exemple citer effectivement, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous y abordez plus tard, mais sur l'évolution des années 60, avec notamment la croissance des mobilités en termes de moyens de transport et également l'explosion du temps libre et de la société des loisirs, donc qui correspondent à des attentes sociétales dans ce domaine.
Mais peut-être d'abord sur la croissance récente, Emeline Hatt, pardon de vous couper, comment expliquer cette croissance de ces 10 dernières années ?
Je pense qu'on peut notamment lier ça, par exemple, à l'explosion en termes de mobilité liée au low cost, qui ont permis qui ont permis d'accéder à des destinations pour des coûts moindres. Le rôle des tours opérateurs aussi, qui est dans cette massification du tourisme. Et plus largement, d'un point de vue du système économique, le tourisme est venu remplacer, d'une certaine façon, des secteurs économiques en déclin, notamment le secteur industriel ou agricole, et est venu, pour certains territoires, devenir une nouvelle source de revenus, d'emplois sur certains territoires.
Pour l'année 2018, c'est le Moyen-Orient et l'Afrique qui ont enregistré les plus fortes hausses. Mais ce sont des régions qui sont encore loin derrière les principales destinations touristiques. L'Europe en particulier, c'est aujourd'hui une destination qui est largement en tête, Jean-Pierre Lozato.
Oui, alors je voudrais quand même dire deux, trois petites choses sur le plan économique, hein, parce qu'on a l'air de dire c'est une croissance formidable et autre. Mais c'est vrai aussi qu'on a des accès, je dirais commerciaux, beaucoup plus faciles qu'autrefois. Mais je rappelle quand même un fait fondamental. Quand on fait le calcul de la dépense moyenne par touriste dans le monde, je parle du tourisme international en particulier, mais on s'aperçoit que c'est pas si élevé que ça. C'est-à-dire que si on met, par exemple, si on prend 8 jours, si on prend le transport, l'hôtellerie, etc., et la moyenne, je dis bien la moyenne, je ne dis pas qu'il n'y a pas plus ou moins, mais la moyenne ne dépasse pas 200 euros par jour par touriste, il faut bien le savoir.
Et c'est un chiffre qui est en diminution ?
Non, il n'est pas en diminution, mais il augmente assez peu. Alors, ce qui augmente, c'est le nombre de touristes. Il faut beaucoup de par exemple, il faut 100 fois plus de touristes pour faire un chiffre d'affaires par rapport à l'automobile, si vous voulez. Et en ce qui concerne maintenant la répartition régionale, c'est vrai que l'Europe reste encore dominatrice, mais on assiste à la mondialisation depuis des années. Et malgré cela, la hiérarchie commence un peu à bouger. Hein. D'ailleurs, on dit toujours que la France est la première destination touristique.
Depuis le début des années 90. Voilà.
Mais nous ne sommes pas le premier pays en termes de recettes finales, pour le savoir. Hein. Donc, vous voyez, tout ça, c'est...
Quel est le premier pays ?
Alors, le premier pays, a priori, c'est les États-Unis. Et tout juste derrière, c'est l'Espagne. Après, la France, elle est là. Mais la Chine, comme vous le savez, elle arrive un petit peu. Bon, après, ça se répartit de façon très inégale. Il faut le savoir, très inégale selon les pays. Et maintenant, il est vrai que pour des pays comme les Maldives, le tourisme, c'est 90%. Pour la France, non, bien entendu.
Aujourd'hui, on assiste à une concurrence de plus en plus forte, Emeline Hatt, entre la France, qui veut garder justement cette place de première destination touristique mondiale, et la Chine, qui a clairement affiché son ambition de la remplacer.
Oui, c'est vrai que cette concurrence se retrouve à différentes échelles, à la fois à l'échelle mondiale, comme vous le soulignez, par exemple, cette concurrence entre Chine et France. Et on le retrouve également, cette forme de concurrence entre les destinations, même à une échelle nationale et infranationale, régionale. avec une forme de compétition, effectivement, pour attirer à la fois dans le champ touristique, mais finalement plus largement en termes, il y a une équivalence en termes d'hybridation des pratiques, parce que c'est à la fois attirer des habitants et des entreprises, et indirectement, ça bénéficie aussi au secteur touristique.
Et la Chine a vraiment investi considérablement, puisqu'elle est passée, je crois, de la 10e place en 1990 à la 3e aujourd'hui. Emeline Hatz.
Effectivement, la Chine dans ce domaine marque une réelle ouverture. D'ailleurs, on le voit à la fois en termes de nouvelles destinations, la Chine qui attire, et également la Chine qui émet de plus en plus de visiteurs qui viennent dans les pays étrangers.
Jean-Pierre Lozato.
Oui, il est vrai que la Chine a fait son apparition depuis une dizaine d'années. Alors, ce qui a marqué le début de l'arrivée de la Chine, c'est un phénomène social très important en Chine, puisqu'il y a à peu près 12 ou 13 ans, le gouvernement chinois a décidé qu'il y aurait des congés payés pour tous les Chinois. Alors ça a changé beaucoup de choses. Alors je dis pas que l'ouvrier moyen vit en France, mais on a au moins 80 millions de gens qui ont les moyens de voyager dans le monde.
C'est leur juin 36 à eux.
Voilà, c'est un peu ça. Et c'est vrai que la Chine aujourd'hui s'ouvre aux touristes. C'est-à-dire qu'elle a commencé par autre chose. Et puis là, ces 2-3 dernières années, on voit très bien que des groupes chinois, des financiers chinois, commencent à se dire, tiens, le tourisme, c'est une bonne affaire peut-être. Et on l'a vu avec le Club Med qui a été racheté par les Chinois.
Et alors pour bien comprendre, il faut revenir aux origines de la massification du tourisme.
Au dernier congrès national du tourisme, le ministre des Travaux publics et du tourisme indiquait qu'au moment où notre commerce extérieur est déficitaire, le tourisme, qui est capable de rapporter à la France 100 millions de dollars, peut vraiment être considéré comme une des premières industries françaises. Et comme aucun pays comme la France ne peut offrir tant de richesses naturelles ou culturelles, aucun n'est mieux placé pour gagner le pacifique combat dont dépend pour partie la prospérité du pays. Mais il ne suffit pas d'avoir des trains nombreux, le premier réseau routier de l'Europe, un équipement hôtelier moderne, il faut y joindre encore le sourire d'un accueil fraternel, le sourire de la France.
Le sourire de la France, voilà ce que dit l'homme politique Alfred Cote-Floret dans une archive de l'INA du 13 avril 1950. C'est après la Seconde Guerre mondiale, comme Emeline Hatz commençait à le dire, que le tourisme de masse explose véritablement avec l'amélioration du niveau de vie et puis les révolutions des transports successives, Jean-Pierre Lozato.
Oui, c'est vrai. Tout ça est largement connu. On a eu un demi-siècle formidable, il faut le dire. L'accès de la grande masse, d'où le terme de masse que j'aime pas trop d'ailleurs, au passage, de la plupart des gens au tourisme, avec des moyens de mobilité, mais surtout accessibles sur le plan commercial. Donc c'est très important. D'ailleurs, si la croissance du tourisme continuait, il faudrait, on disait tout à l'heure 2030, 2040, etc., il faudrait multiplier par 3 le nombre d'avions. Vous imaginez ce que ça veut dire?
Et dans un contexte où, évidemment, la tendance est plutôt à cesser de prendre l'avion pour des raisons environnementales.
Absolument. Alors, donc là, on peut se demander si on n'est pas arrivé à une certaine limite, bien que le mot tourisme masque le fait que les pratiques touristiques sont très nombreuses, multiples. Et comme le disait ma collègue tout à l'heure, le tourisme, c'est beaucoup de choses. Il y a les loisirs dedans.
Mais alors, ce qui est intéressant, Emeline Hatz, c'est que c'est d'abord le tourisme intérieur qui s'est développé dans les années 50-60, avant que le tourisme se mondialise.
Oui, d'une certaine façon. Après, finalement, dans les années 60, l'État s'est mobilisé pour soutenir le tourisme, comme ça a été évoqué dans cet extrait, pour notamment contribuer au PIB et équilibrer la balance des paiements. Et en fait, on observe qu'à cette époque-là, l'objectif de l'État était aussi de capter les devises étrangères, notamment des Espagnols des Européens du Nord qui partaient en Espagne sur la Costa Brava et du coup essayer de les retenir sur le littoral français. Ou également en montagne, retenir les voyageurs de l'Europe pour venir séjourner dans les montagnes françaises. Et alors, il y a quand même eu toujours un tourisme interne et également la volonté d'attirer les touristes de l'Europe.
Tourisme interne qui perdure, qui est encore très très important en France, Jean-Pierre Lozato.
Oui, d'ailleurs, la France a été quand même assez emblématique de ce côté-là. Elle était un des premiers pays à lancer des plans. Et autrefois, on avait un plan en France, plan quinquennaux. Et on se rappelle de toutes les missions qui ont fait qu'on a créé des stations touristiques balnéaires sur le Languedoc-Roussillon. Ensuite, on a eu les stations de sport d'hiver. Et c'est vrai qu'il y a une grande volonté de faire ça, ce qui explique d'ailleurs le succès futur un petit peu français.
Et donc il y a un soutien de l'État, mais quelle est ensuite la part des PME et des multinationales? Alors, dans le secteur
du tourisme? La France avait quand même une particularité, c'est qu'elle pratiquait ce qu'on appelait l'économie mixte. C'est-à-dire qu'elle disait, bon, moi je voudrais faire ce plan, mais elle s'adressait ensuite évidemment à des sociétés privées et à des aménageurs. Donc on a été finalement dans l'équilibre, si vous voulez, entre, si on peut dire, le capitalisme libéral et puis la volonté étatique quand même de gérer les territoires. La preuve en est, c'est que parallèlement, on a créé en 1975 le Conservatoire du Littoral. Donc vous voyez, la France est emblématique. Mais ce qui est remarquable aussi, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de pays devraient réfléchir à ça, ne pas laisser un tourisme débridé et peut-être revenir à des planifications.
Et en même temps, si on regarde la tendance récente, ce qu'on observe, c'est que certes, la France n'a jamais autant accueilli de visiteurs étrangers. Elle a franchi le cap des 90 millions il y a quelques mois. Mais en revanche, les Français, eux, partent de plus en plus à l'étranger, Emeline Hatt.
Oui, effectivement, les deux phénomènes se rejoignent. Et on a un phénomène de Français qui partent de plus en plus à l'étranger. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est également facilité par les moyens de mobilité qui sont accrus, par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et notamment les réseaux sociaux, l'accès aux plateformes via Airbnb qui facilite ce voyage à l'extérieur, avec néanmoins une tendance qui commence à faire évoluer les choses, avec aujourd'hui, comme vous le disiez, sur la question de l'enjeu environnemental et des questions qui se posent sur un tourisme plus local, plus près de chez soi.
Et en tout cas, chaque pays est amené à calculer sa balance touristique. À quoi est-ce que cet indicateur sert, Jean-Pierre Lozato?
Écoutez, tout le monde fait ça, hein, la balance touristique. Prenez le cas des Maldives ou de l'île Maurice qui dépendent du tourisme, bien sûr. Pour des grands pays, je dirais, comme la France, voire les États-Unis et autres, heureusement que le tourisme passe 50% de notre PIB, sinon ça serait un mauvais signe.
Mais il faut dans les pays de l'OCDE, c'est à peu près voilà, 5% c'est
entre, du PIB. Selon les pays, c'est entre 5 et 7% selon les pays. Mais j'ajoute qu'il ne faut pas négliger le fait qu'on arrivera à un moment donné à des limites. Il y aura certainement des limites, et ces limites, elles seront surtout territoriales, finalement, beaucoup plus qu'économiques.
Et en pourtant, effectivement, si on écoute l'Organisme mondial du tourisme, il parle d'une croissance dans les prochaines années qui devrait être de 4 à 5%, donc peut-être un peu inférieure à celle qu'on a constatée ces dernières années, mais tout de même importante.
Peut-être, parce que c'est toujours difficile de prévoir l'avenir. Mmh. Hein. Mais c'est vrai que si on continue comme ça, si on considère qu'il y a par exemple, je ne sais pas moi, 9 milliards d'habitants dans quelques temps, il est évident qu'on devrait en avoir plus. Bon, ça me paraît logique.
Et alors, vous nous disiez, Jean-Pierre Lozato, que pour vous, l'aménagement du territoire en France avait bénéficié de politiques spécifiques qui avaient été mises en place et qui avaient permis de penser véritablement cet aménagement. Ce n'est pas l'avis du sociologue Jean Viard. Il était reçu dans les matins d'été sur France Culture. On l'écoute.
Pour moi, c'est d'abord une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'effectivement, la mondialisation, c'est des tas de choses, certaines très négatives, certaines non, mais c'est aussi des hommes qui vont visiter d'autres hommes, qui vont visiter la vallée de la Loire, etc., etc. Il y a aussi du tourisme consumériste, tout ça, bien sûr, mais d'abord, c'est ça. Après, le problème, c'est qu'on dirait qu'on peut développer ça sans fin. C'est-à-dire quand le Premier ministre annonce qu'il vise 100 millions de touristes en France en 2020, je suis d'accord avec lui, mais ça nécessite la réflexion. On peut pas tous aller au même endroit au même moment, on peut pas avoir tous les hôtels dans un quartier, c'est plus habitable, etc. C'est-à-dire que il faut penser le tourisme dans la société. Et ça, si vous voulez, je pense qu'on ne l'a pas fait. Vous savez que c'est le seul secteur en France où il n'y a aucun grand laboratoire de recherche. Et économiquement, c'est par exemple plus important que l'agriculture, y compris en termes d'aménagement du territoire. Parce que le tourisme, ça aménage massivement le territoire, y compris si on fait des autoroutes et des TGV. C'est beaucoup parce qu'ils sont pleins de touristes. Mais on dirait que c'est spontané. Ça nécessite de la réflexion, ça nécessite du doigté. Il y a un énorme travail à faire pour que l'habitant, il peut y trouver son plaisir. On est content jusqu'au point où, effectivement, on peut continuer à garer notre propre voiture. Donc, il y a un équilibre à gérer.
Un équilibre à gérer, nous dit donc Jean Viard sur France Culture. C'était le 14 août 2017. Vous diriez, Jean-Pierre Lozato, que cet aménagement, cette mise en tourisme a été insuffisamment pensée en France?
Oui, je connais bien Jean Viard et on partage de ce côté-là un petit peu la même opinion. Et c'était général. Tout le monde disait, le tourisme, ça marche tout seul. D'ailleurs, une remarque au niveau de l'Europe, du Conseil de l'Europe, le tourisme est l'un des rares secteurs qui ne fasse pas partie du Conseil de l'Europe. Hein, alors qu'à l'agriculture et autre chose, ça reste strictement de la volonté des nations. Mmh. Donc, vous voyez déjà ce que ça veut dire. Et par conséquent, aujourd'hui, je répète, on arrive à certaines limites dans certains cas. C'est vrai aussi que faire du tourisme, c'est pas seulement pour aller voir des pierres ou des monuments, c'est aussi pour des échanges culturels, des échanges entre populations. Tout ça est absolument vrai. Et c'est vrai que de ce côté-là, c'est le point positif du tourisme par rapport à beaucoup de choses. C'est que ça permet le contact des uns et des autres.
Et alors, un contact qui peut entraîner un certain nombre de frictions, on va en parler, mais ce qu'il faut dire peut-être d'abord, Emeline Hatt, c'est que en France, le tourisme est cantonné à 10% du territoire, donc c'est l'un des enjeux auxquels il faudra faire face dans les prochaines années, et peut-être le second enjeu, c'est le vieillissement de la population touristique auquel il va falloir s'adapter.
Effectivement, ça joue, ces éléments jouent, notamment les grands défis, ce sont la transformation démographique avec ce vieillissement de la population qui entraîne des besoins de culture, de découverte, de sécurité, qui ont été mis en avant par les géographes et les sociologues du tourisme. Il y a en parallèle cette mutation de la demande, ce passage au numérique et ce changement climatique qui interroge sur l'évolution des territoires touristiques, qu'il s'agisse des villes touristifiées ou des territoires créés par le tourisme, comme les stations de montagne ou du littoral.
Mais au-delà de la France, on peut véritablement dire que l'Europe a été pionnière en termes d'aménagement touristique, avec ce terme de mise en tourisme d'un territoire que l'on comprend sans tout à fait le comprendre, Emeline Hatt.
La mise en tourisme est effectivement un concept qui est largement mobilisé dans la recherche pour montrer finalement comment depuis l'aristocratie anglaise qui est partie faire ses voyages, notamment en Italie et en passant par la France, comment les lieux ont été mis en tourisme, à la fois sous le Second Empire, il y a eu une grande période de création de stations, mais qui n'était pas planifiée par l'État, qui était plutôt le fait d'opérateurs privés. Et dans un second temps, on distingue les années 60, avec ce qui a été évoqué tout à l'heure par mon collègue, la création des stations par les missions littorales d'aménagement, qui ont permis dans ce cadre-là une véritable mise en tourisme par la création de stations. Alors qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la création de toutes pièces de stations, mais c'est plutôt comment on fait vivre les lieux et le tourisme dans ces lieux. Avec ce qui a été évoqué par Jean Viard, la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à penser le tourisme dans la société et le tourisme est peu abordé dans la planification de l'aménagement des territoires.
Alors justement, la massification du tourisme de ville a entraîné un certain nombre de tensions. À Barcelone, on ne compte plus les panneaux « Tourist go home »,« Rentrez chez vous », tandis que le mécontentement grandit dans d'autres villes européennes. Est-ce que c'est lié à un problème d'aménagement du territoire ou est-ce qu'il y a juste trop de touristes, Jean-Pierre Lozato?
Alors c'est un peu compliqué parce que les situations sont assez différentes. Si on prend par exemple, ne serait-ce que l'environnement, alors évidemment, Venise est un cas emblématique aujourd'hui. Et je vous disais d'ailleurs que ça fait 20 ans qu'avec une équipe, on travaille sur Venise. Alors c'est emblématique pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un tel niveau de concentration de touristes. Mes collègues de Venise disent, alors je ne sais pas si c'est vrai, qu'ils ont à peu près 20 millions de visiteurs qui arrivent. Visiteurs, je dis bien, pas forcément de séjour.
Pour une ville de 55 000 habitants. 50,
et puis surtout qui ne représente que 900 hectares, 1000 hectares, c'est tout. Mmh. Avec ces gros navires de croisière, qui provoque des problèmes environnementaux, locaux, avec des protestations de gens qui brandissent des protestations, enfin bref, etc. Donc là, des problèmes environnementaux et sociaux importants. À Barcelone, c'est paradoxal parce que ça touche certains quartiers. Les quartiers, là, par exemple, la Sacrée Famille, la Sagra Familia, où tous les touristes vont, ou des Ramblas. Et alors, pourquoi? Parce que, est-ce qu'il y aurait autant de touristes à Barcelone qu'à Venise? Non. Le problème, c'est que les locations sont faites pour les touristes. Beaucoup de gens ne trouvent plus à se loger.
Ça fait monter les prix des loyers.
Voilà, c'est monter les prix. Il y a donc des impacts sociaux négatifs. Et du coup, ça retombe sur les touristes en partie, évidemment. Hein, vous voyez ? Alors, il y a des situations qui sont extrêmement différentes. Et puis, il y a des situations qui sont pires. Alors, celle-ci, c'est la pire, si j'ose dire. C'est lorsque, par exemple, sur des communes que nous avons étudiées sur la Costa del Sol, hein, je parle de Miras, qui est près de Malaga, eh bien là, ou à Tenerife, les sociétés multinationales ou étrangères ont racheté carrément les territoires, se sont implantés, et on a vu disparaître l'agriculture, on a vu disparaître les jeunes qui étaient là. Mmh. Alors là, c'est certainement la limite absolue.
Ce qui pose la question, effectivement, de l'engagement
dans les villes,
ou du désengagement.
C'est vrai, dans les villes, il y a des villes comme Paris, pourtant on pourrait dire qu'il y a beaucoup de monde, il y a un monde fou. Mais à Paris, on a pris quand même des mesures, par exemple, pour empêcher les bus d'aller n'importe où. On essaie de gérer les flux. Vous voyez, il y a un minimum de choses qui sont faites.
Mmh. Emeline Had, vous êtes d'accord, ce n'est pas simplement une question d'un nombre trop important de touristes, c'est une question de gestion de ce tourisme.
La gestion des flux de touristes est effectivement essentielle dans ce domaine-là. Il y a eu, dès les années 70, des questions de recherche qui portaient sur la gestion des capacités de charge, qu'on appelle aussi la question des limites acceptables. Et sur le littoral, ces questions reviennent également sous forme de la gestion des capacités d'accueil, qui est de savoir effectivement comment on peut organiser ces flux pour éviter qu'ils soient trop denses sur un territoire restreint, comment on peut peut-être les diffuser, comment on peut en limiter le nombre, mais c'est très complexe. On voit, par exemple, le Parc National de Porquerolles a mis en place une initiative en ce sens sur la gestion des capacités de charge, où il essaye de faire travailler les acteurs du secteur privé et les acteurs publics autour de cette question. Jusqu'à quel point peut-on continuer à faire venir des touristes sur un territoire restreint ?
L'objectif, c'est d'éviter que les touristes soient isolés dans des parcours particuliers et qu'en même temps, les habitants ne désertent pas certaines zones de la ville, voire la ville elle-même. Venise a perdu énormément d'habitants au cours des dernières années.
Oui, on a perdu 55 000 habitants. Il en reste à peu près 60 000. Sur Venise, je dirais la cité de Venise, parce que Venise est une commune qui est grande, attention. Donc c'est vrai, et aujourd'hui les autorités essayent, je dis bien, d'enrayer le phénomène.
Par exemple par des taxes.
Voilà, par des taxes. Alors, on a participé à une commission d'ingénierie, puisque c'est de l'ingénierie que nous faisons, nous, et on a calculé quels étaient les jours dans l'année où on dépassait, si j'ose dire, un quota de visiteurs trop important, vu les impacts que ça donnait. Alors, je vous donne la statistique. Nous avons donc dit, attention, quand on est à 85 000, 86 000 visiteurs jour, là, les problèmes commencent. Et donc, on avait suggéré, il y a quelques années, un péage au niveau des tours opérateurs ou des seuls visiteurs, non pas ceux qui séjournent, hein, mais des visiteurs en particulier ces jours-là. Il semblerait qu'aujourd'hui, la commune de Venise a donc voté ce...
C'est passé dans la loi de finances, effectivement, ces péages de 2,50 € à 10 €. Est-ce que c'est la solution pour vous, Emeline Had, d'établir des quotas ainsi pour les villes touristiques et peut-être à des périodes de surfréquentation?
Alors c'est la solution qui commence à être mise en place. Elle va pas s'en poser de questions, évidemment. On peut s'interroger du coup sur l'accessibilité sociale du tourisme, s'il y a un coût pour les visites. Néanmoins, il est assez difficile de trouver des outils de gestion, de régulation de ces flux touristiques. Et effectivement, la mise en place de péages, l'application de frais stationnement en Islande, ce genre d'outils sont généralement favorisés par les territoires qui commencent à être confrontés à cette problématique de la régulation.
Oui, parce qu'on parle beaucoup effectivement des difficultés. Il y a aussi Amsterdam qui prend des mesures. On peut citer Bruges. De plus en plus de villes essayent d'endiguer ces flux. Et en même temps, on peut aussi considérer que c'est une réussite considérable d'avoir permis à un nombre de gens toujours plus grand de pouvoir voyager à Emeline Had.
Oui, on peut le considérer sous cet angle-là. On voit du coup en France des dispositifs qui sont mis en place comme le label Grand Site de France qui vient effectivement montrer au territoire, enfin qui propose au territoire de réfléchir à cette question de l'attractivité des sites naturels exceptionnels et la façon du coup de réguler ces flux.
On va voir dans un instant quelle autre forme cette mise en tourisme peut prendre. On en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
You Are a Tourist chante le groupe de rock américain Descap for Cutie sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, nous poursuivons notre discussion sur l'économie du tourisme en compagnie de Jean-Pierre Lozato et Émilie Hatt qui est avec nous en duplex d'Aix-en-Provence. Alors la mise en tourisme peut passer par l'aménagement d'une ville historique ou par la création ex nihilo d'un espace dédié au tourisme. C'était l'objectif des plans neige.
Exploiter rationnellement les gisements d'or blanc, c'est-à-dire équiper la montagne en remontée mécanique, construire suffisamment de lits pour accueillir les skieurs, faire de la neige un piège à devise, tels furent les objectifs du plan neige. Politique très empirique d'aménagement de la montagne, politique élaborée au cours des années 60 et mise en œuvre à partir de 1970. Le plan prévoyait la construction de 150 000 lits nouveaux en montagne entre 71 et 75. 23 stations anciennes et 20 stations nouvelles des Pyrénées, des Alpes du Sud et des Alpes du Nord, devaient bénéficier de ce plan. Dans les stations nouvelles, le rôle des promoteurs fut souvent déterminant.
Voilà, une archivina du 29 décembre 1977. Émilie Hatt, comment est-ce que la montagne a été aménagée pour l'accueil des touristes? Il y a eu une succession de plans neige à partir des années 60?
Alors effectivement, on parle du plan neige, qui est en fait une doctrine qui a été construite a posteriori, dont on a recomposé finalement l'essence. C'était un aménagement voulu dans les années 60, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est traduit par la création notamment de stations dites intégrées, dans lesquelles le rôle du promoteur et d'un architecte en chef avait un rôle important dans la création de ces territoires. À côté, il y a également eu des créations de stations plus spontanée ou en continuité de villages existants. Et ça a contribué effectivement à faire exploser le nombre de lits touristiques en montagne.
Avec un modèle économique qui est vraiment spécifique.
Effectivement, un modèle très, très spécifique, ce modèle intégré où, dans lequel l'opérateur, il y a un fort lien entre le nombre d'hébergements marchands créés et les opérateurs de remontées mécaniques. L'idée étant d'avoir assez de lits pour permettre de rentabiliser l'activité des domaines skiables.
Jean-Pierre Lozato-Jotard.
Oui, on a bien vécu cette période, effectivement, lorsqu'on a vu surgir Supertigne, Flaines et j'en passe, toutes les grandes stations qui étaient surtout en altitude. Elles étaient plus hautes, parce que c'était le tout-ski, quoi, si j'ose dire. Alors, sur le plan de la rentabilité, on en revient un petit peu. Si je prends le cas des Arcs, il faut savoir que la commune de Bourg-Saint-Maurice, qui s'était donc impliquée là-dedans, qui avait d'ailleurs pris en gestion les remontées mécaniques, mais aujourd'hui, il y a eu des gros problèmes économiques. Parce que finalement, ça coûte très cher. Et à tel point que si on prend les Arcs au Isola 2000, dans les Alpes du Sud, la station, pas en tant que telle, mais la gestion a été rendue 3 fois. Ça veut dire qu'on cherche toujours des nouveaux pour reprendre le bébé.
Et comment expliquer que c'est été rentable si longtemps et alors que
ça a été rentable si longtemps, c'est un peu discutable. Ça a été rentable, par exemple, pour les promoteurs immobiliers qui ont vendu à l'époque des studios cabines, des apparts. Oui, ça l'a été un certain moment. Mais aujourd'hui, je dis bien, le coût d'entretien est tel que la dépense d'ailleurs moyenne par touriste, je le répète souvent, elle ne varie pas tellement.
Donc, et dans un contexte de réchauffement climatique qui aggrave aussi les choses.
Et de concurrence, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la France, bien entendu.
Émilie Hatt, sur les difficultés économiques actuelles de ces stations.
Oui, ces difficultés ont été pointées par les rapports de la Cour des comptes, un qui portait en 2015 sur les Pyrénées, un autre en 2018 sur les Alpes, avec un modèle qui s'essouffle, qui d'ailleurs, on peut s'interroger sur la viabilité de ce modèle dès son origine, notamment, comme vous l'avez souligné, dans un contexte de risques liés au changement climatique, avec des rapports comme celui de l'OCDE, déjà publié en 2007, qui interrogeait sur la viabilité des stations de sport d'hiver à long terme, en cas de réchauffement de 2 ou 4 degrés, avec près de la moitié des stations allemandes, par exemple, qui ne serait plus rentable, qui ne permettrait plus d'ouvrir avec 100 jours d'enneigement par an.
Et en effet, il y a une concurrence européenne de plus en plus importante. Les Français partent faire du ski à l'étranger de plus en plus, Émilie Hatt.
Oui, avec Alors, des Français qui partent faire du ski à l'étranger et également une concurrence des destinations qu'on appelle soleil, puisque en hiver, au mois de février, certains vont opter plutôt via les low cost pour un départ dans des pays du Maghreb ou autre, avec un coût qui sera des fois moins élevé que le coût d'un séjour au sport d'hiver.
Et alors, comment est-ce que ces stations de sport d'hiver peuvent s'adapter aujourd'hui à ces nouveaux défis, Jean-Pierre Lozato-Giottard? Vous diriez que c'est la fin de l'époque des stations d'hiver qui commence?
Ça va dépendre évidemment de la réalité climatique, c'est évident. Si je prends une station comme l'Alpe d'Huez, qu'on connaît bien, c'est vrai qu'elle, ou Isola 2000 d'ailleurs, ont la chance d'avoir, si je veux dire, un enneigement particulièrement fort. Bon, ok, ça passe à peu près. Mais c'est vrai qu'il y a sûrement des reconversions à imaginer. D'ailleurs, on voit bien que ce n'est plus le ski alpin comme avant, tout seul. On fait du surf, on fait un tas de choses.
Les pratiques ont largement évolué.
Alors, il y a des stations qui commencent déjà à se dire, surtout celles qui sont intermédiaires en altitude, que bon, il faut développer des activités, voir des activités culturelles. L'été, faire des activités beaucoup plus nature, tout ça existe. Et on voit bien aussi que le ski de fond a pris pas mal d'ampleur, même dans des secteurs qui autrefois n'étaient pas tellement utilisés, si vous voulez.
Donc la stratégie, ça a été la diversification des sports.
Voilà. Mais ce qui me frappe, par ailleurs, dans le reste du monde, ce qui me frappe surtout, c'est comment aujourd'hui la Chine, qui commence à se dire, mais nous aussi on pourrait faire des stations de ski, vous voyez, l'exemple, je dirais, du cycle français qui arrive à une certaine limite, n'est pas forcément le bon exemple pour les autres. Il faut faire attention parce que tout ça se passe à l'échelle mondiale.
Vous voulez dire qu'ils vont apprendre de nos erreurs?
Malheureusement, il n'y a pas seulement d'ailleurs la montagne, même sur la mer. Beaucoup de pays, de nouveaux pays touristiques recommencent les mêmes erreurs. Je pense notamment au gaspillage de l'eau, ne serait-ce que ça.
Parce qu'effectivement, si la mise en tourisme en Europe est assez ancienne aujourd'hui, c'est en grande partie en Chine et aussi au Moyen-Orient qu'on constate un véritable développement des aménagements touristiques, Emeline Hatz.
Le développement de ces activités à l'étranger est en effet assez important. Et pour revenir sur ce que disait mon collègue Jean-Pierre Lozato, ce qui est intéressant, c'est de voir si les territoires arriveront aussi à peut-être tenir compte des erreurs qui ont pu être faites en France, en Europe ou autre. Et également les pratiques qui ont pu être mises en place. Je pense au littoral où la France en 86 a notamment développé la loi littorale pour finalement contenir l'urbanisation, mieux maîtriser l'urbanisation sur le littoral. Et on voit par exemple qu'en Algérie, une loi littorale a été produite en 2002. Au Maroc, une loi littorale a été proposée en 2015. Donc peut-être cette volonté également de réfléchir à la maîtrise les impacts de ces aménagements sur le territoire.
Jean-Pierre Lozato-Giottard.
Oui, alors en effet, tout ça c'est vrai. Et les situations sont vraiment diverses. Je pense notamment à la rive sud de la Méditerranée. Alors on sait tous que par exemple la Tunisie a joué à fond la carte du tourisme littoral balnéaire avec pas mal d'erreurs. D'ailleurs notre équipe a été appelée, figurez-vous, parce qu'il y avait des surconsommations d'eau, des nappes phréatiques, et il a fallu qu'on intervienne pour diviser par 3 cette consommation d'eau. D'autre part, le Maroc, lui aussi, donc, s'est ouvert au tourisme, a fait beaucoup de choses, peut-être un peu plus limitées que la Tunisie. Puis, dans le cas de l'Algérie, alors là, l'Algérie ne fait pas de tourisme aujourd'hui, il faut le savoir, pas grand-chose. Je sais que j'ai participé à 3 missions algériennes, et aujourd'hui, avec le Conseil de l'Europe, puisque vous le savez, je suis expert auprès du Conseil de l'Europe, nous avons un projet de développement, figurez-vous, des zones rurales en Algérie. Mais l'Algérie, pour l'instant, c'est un peu un territoire vierge.
Mais il y a une volonté politique de développer le tourisme.
Il y avait une volonté, je ne sais pas maintenant où nous en sommes, parce que ça change. Mais il y aura sûrement une volonté touristique, puisqu'il y a des jeunes Algériens qui s'en occupent. Mais dans cette volonté touristique, notre discours à nous, c'est de leur dire, attendez, puisque vous voulez faire le développement du tourisme algérien, vous n'avez rien fait, c'est une chance, il ne faudra pas faire les mêmes erreurs. Ce que nous leur proposons, c'est de participer justement à la réflexion de leur futur en évitant les bêtises qui ont été faites ailleurs.
Mais alors justement, il y a des mauvaises pratiques qui perdurent et en même temps, Emeline Hatz, on voit aussi l'émergence d'un nouveau type de tourisme, un écotourisme, un tourisme durable. Quels seraient les pays à qui on pourrait attribuer des bons points, entre guillemets, sur cette gestion un petit peu durable du tourisme ?
Je ne sais pas si on peut attribuer des bons points à des pays entiers, peut-être plutôt sur des dynamiques ou des territoires spécifiques. C'est vrai qu'on voit par exemple pour l'écotourisme le rôle des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des aires marines protégées qu'on peut trouver dans différents pays. On a peu d'évaluation et de suivi des impacts environnementaux ou des coûts plus élevés que cela peut générer, mais c'est effectivement des formes de tourisme dites plus durables.
Et souvent plus élitistes, je pense en particulier à la Namibie, qui a beaucoup développé un tourisme de lodge assez luxueux, Jean-Pierre Lozato-Giotta.
Oui, enfin, je crois qu'aujourd'hui, on a tous les modèles possibles. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a des choix à faire. Est-ce que la Namibie dit « je fais ça parce que je veux éviter que ça détruise mon environnement » Pourquoi pas. Aujourd'hui, nous avons quand même des équipes pluridisciplinaires qui pratiquent d'ailleurs à la fois le soft et le hard, si j'ose dire. Et on est capable, je pense qu'aujourd'hui, on est capable de définir les modèles touristiques, les modèles de territoire. Je dis pas de pays. Et comme disait ma collègue, c'est pas vraiment des pays, c'est des territoires.
C'est pas à l'échelle du pays
voilà,
que ça
c'est l'échelle des destinations. On a identifié aujourd'hui 60 ou 70 modèles possibles, vous voyez, c'est pour vous dire. Mais avec quand même toujours l'idée suivante. C'est que on ne peut plus laisser seulement l'aspect économique ou simplement des sociétés, c'est normal, qui cherchent des revenus à faire ce qu'elles veulent. Et d'autre part, il faut savoir qu'il faut gérer ces flux. Enfin, il y a quand même deux éléments sans lesquels le tourisme ne marchera plus. Pas d'eau, pas de tourisme. Plus de transport, plus de tourisme.
Et alors, c'est intéressant parce qu'en effet, pour des raisons environnementales, évidemment, il s'agit de faire en sorte que le tourisme de masse pèse peut-être moins sur l'environnement, mais c'est aussi pour des raisons stratégiques, on va le voir. En tout cas, en Thaïlande, la plage de Maya Bay, qui a été rendue célèbre par le film La Plage, a été fermée il y a tout juste un an.
Le film La Plage, ça n'a été que le début. Si vous regardez le tourisme à Maya Bay, au début, il n'y en avait qu'un tout petit peu. Et là, il y a eu le film, la fréquentation a grimpé de plus en plus. Mais quand les Chinois ont pu voyager, ils ont voulu découvrir le monde. Et beaucoup sont venus visiter Phuket et Maya Bay. Et là, la courbe, alors qu'elle montait doucement, d'un coup, la Chine. Je ne dis pas que c'est un problème. Ils ne font rien de mal. Ils veulent juste voir nos belles plages. Seulement, ils sont nombreux. Et c'est à nous de réguler cette affluence. On ne peut pas leur dire, vous n'avez pas le droit de découvrir le monde.
Voilà un reportage diffusé il y a quelques jours sur France Info. L'impact du tourisme de masse sur l'environnement menace donc à la fois les sites naturels, mais aussi l'activité touristique elle-même. Et il faut donc trouver un juste équilibre.
Oui, c'est vrai qu'il y a un véritable lien entre l'environnement, la préservation de l'environnement et le tourisme. D'ailleurs, on voit le même lien avec le tourisme et le changement climatique, où on voit que le tourisme est un facteur d'aggravation du changement climatique, notamment par ses mobilités internationales. Et en même temps, c'est une de ses premières victimes, puisque l'environnement, le paysage, le contact à la nature sont une des ressources qui poussent les visiteurs à venir dans les pays. Donc il y a un véritable enjeu à préserver l'environnement et comme ça a été dit, la question de la gestion de l'eau est ici essentielle, en particulier pour les pays de la rive sud méditerranéenne, mais pas seulement. La gestion de l'eau, la gestion également des eaux usées, des rejets dans la Méditerranée par exemple.
Mais alors est-ce qu'il faudrait que les pays se réunissent autour d'une charte des droits et des devoirs des touristes à l'égard de l'environnement ? C'est une charte qui n'est pas vraiment une idée nouvelle, Eminat.
Oui, il y a eu déjà des chartes du tourisme durable à l'échelle internationale, à l'échelle des pays méditerranéens. Donc c'est un premier pas pour commencer à amorcer la réflexion en ce sens. Après, la vraie difficulté, c'est la question de la gouvernance avec la façon dont on met autour de la table finalement les acteurs privés et les acteurs publics autour de cette question, comment on construit des scènes de gouvernance qui permettent de partager, de valider des diagnostics sur l'état de la durabilité des territoires touristiques en vue de produire des plans d'action qui seraient acceptés par les populations locales et par les acteurs privés également.
Cette question de la gouvernance, Jean-Pierre Lozato-Giotard, est centrale dans la réflexion ?
Oui, il est évident que c'est central, à la condition que l'on ait, si j'ose dire, les moyens techniques et que l'on puisse projeter ce qu'on veut faire. Je parlais tout à l'heure des modèles. Hein. Et oui, il y a des modèles. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le tourisme urbain, on sait que, grosso modo, on a à peu près une quinzaine, une vingtaine de modèles de villes touristiques. hein, qui implique évidemment les capacités de charge, qui implique le type de tourisme, l'économie, etc. De la même façon pour les littoraux. Mais on parle souvent de pays, etc. Vous savez que à l'échelle mondiale aujourd'hui, hein, quand on regarde, ne serait-ce que les littoraux, si on prend évidemment les centaines de les milliers de kilomètres des littoraux dans le monde, dans le Groenland bien entendu, je ne mets pas à part, mais si on regarde le tourisme littoral, eh bien la concentration est telle que la majorité des touristes littoraux sont concentrés sur 3% des littoraux mondiaux. Mmh. Et donc, vous voyez, il y a ce type de problème.
D'où la réflexion que vous avez développée autour de combien de touristes doivent être, combien une plage va un peu supporter de touristes.
Sur les plages, on a fait des calculs avec notre équipe, puisqu'on a été appelé à plusieurs reprises dans des endroits où on dit « attention, ça va mal, qu'est-ce qui se passe ? Le sable s'en va ». Eh bien, en gros, les plages les plus belles du monde, les plus résistantes du monde, quand on met 300 personnes à l'hectare, on commence à avoir des problèmes. C'est donc bien un aspect quantitatif et qualitatif, en fonction des données locales, si vous voulez.
Et puis l'autre question qui se pose, c'est celle du financement, de la protection de ces sites touristiques naturels, parce que ce qu'on observe, Emeline Hatt, c'est qu'une taxe sur les visiteurs, ce n'est pas suffisant pour protéger ces sites naturels.
Oui, il y a déjà les taxes de séjour, notamment, qui sont mises en place. Après, il y a des mesures qui ont été développées. Ça a été rappelé, la création du Conservatoire du Littoral en France en 1975, qui permet de faire de l'acquisition foncière d'espaces emblématiques à enjeux, à protéger. On voit également, par exemple, l'OCDE, dans son rapport 2018, qui effectivement propose au gouvernement d'adopter des instruments de financement vert pour incorporer les critères écologiques au support d'investissement et de financement. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la question des moyens qui peuvent être mis en œuvre pour préserver l'environnement est essentielle.
Là encore, il faut une coopération entre le public et le privé, Jean-Pierre Lozetto-Jota, et que ça doit être supervisé par les pouvoirs publics.
Absolument, c'est inévitable, parce que le propriétaire du territoire, c'est le public, quoi, au départ. C'est la population locale. Donc, le privé ne peut pas... D'ailleurs, pour le privé, s'il fait n'importe quoi, il va vers le suicide, quoi. Donc, aujourd'hui, on est tous d'accord qu'il faut trouver des équilibres. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur ces problèmes de foncier, sur ces problèmes de gestion des territoires, sur ces problèmes aussi économiques, bien entendu. Et en tout cas, s'il y avait au moins une chose qui nous semble prioritaire à nous, c'est que la population locale, quelle qu'elle soit, devrait toujours maintenir, si j'ose dire, son autorité sur ce territoire. Parce que, vous savez, on dit souvent, les cultures se rencontrent. Le choix des cultures, c'est pas très grave. Excusez de dire ça. Ça peut être sympathique de connaître les autres. Mais si une population perd le contrôle de son territoire, elle perd très vite sa culture et son âme. C'est peut-être la dernière ou la première des priorités.
Donc la mise à contribution des populations locales et peut-être la diffusion de la manne du tourisme de façon un peu plus large. Je disais tout à l'heure que c'était seulement 10% du territoire français qui profitait véritablement du tourisme. Emeline Hatt.
Effectivement, il y a cette question de la diffusion et on le voit en montagne, c'est comment les produits générés par le tourisme ne vont pas profiter que à la station, mais peut-être à l'échelle de la vallée. Comment il peut y avoir effectivement des phénomènes de partage des produits liés au tourisme. Et c'est encore plus vrai à l'échelle internationale où on voit que des fois une mauvaise répartition des bénéfices du tourisme au profit des grandes multinationales ou des tours opérateurs et qui finalement diffusent des fois assez peu sur les territoires locaux.
Donc il faut que les pouvoirs publics jouent à la fois sur l'offre et sur la demande, faire en sorte qu'il y ait moins de tourisme peut-être et une offre plus exigeante.
Oui, alors nous pensons que, en particulier je pense, que maintenant on arrive à un certain niveau du cycle touristique. Et par conséquent, il ne faut pas tout noircir, quoi. Tout n'est pas négatif, non. C'est bien une question d'équilibre, de gestion, et surtout le tourisme a cette particularité par rapport à l'industrie, à toute autre activité. Moi je dis toujours, c'est l'activité la plus compliquée que je connaisse, parce qu'il y a tout. Il y a la nature, il y a l'économie, il y a le transport, il y a tellement de choses à gérer, évidemment aujourd'hui on commence à gérer ça par l'aspect un peu négatif des choses, mais le tourisme peut avoir un très bel avenir dans le fond, hein, Et si on est capable d'y appliquer une ingénierie sérieuse, quoi, finalement.
Mais il y a un certain nombre d'aléas qui rendent peut-être compliqué le fait de se lancer dans une activité touristique. Un dernier mot, peut-être, Emeline Hatt, sur l'enjeu économique du tourisme aujourd'hui, à la fois en France et dans le monde, et sur les régulations qui doivent l'accompagner, selon vous.
Pour les régulations, ça me semble être un point essentiel qui se pose aujourd'hui. On le voit aussi dans le secteur des plateformes d'hébergement en ligne. C'est comment on régule ces nouveaux phénomènes à l'échelle des villes, à l'échelle des territoires touristiques, pour à la fois canaliser, pour prendre en compte les impacts que cela peut avoir sur les populations locales, pour prendre en compte les impacts sur l'environnement de ce secteur qui, comme cela a été dit, est éminemment complexe, transversal et du coup difficile à la fois à étudier et à la fois à prendre en considération dans la planification des États et des collectivités.
Eh bien, ce sera notre sujet de mercredi. Un grand merci à tous les deux. Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de nous parler aujourd'hui du projet de réforme d'EDF, présenté il y a quelques jours au syndicat par la direction de l'entreprise.
Absolument, un projet qualifié de désintégration-privatisation par les syndicats qui dénoncent la volonté de scinder l'entreprise en deux entités distinctes, l'EDF bleu et EDF vert. D'un côté, EDF bleu rassemblerait les activités nucléaires de l'entreprise avec l'exploitation des 19 centrales, des EPR en cours de construction, les sites de production électroélectrique et le réseau de transport d'électricité détenu à 50,1% par le groupe. De l'autre, EDF Vert regrouperait la production d'énergie renouvelable, mais aussi et peut-être surtout la très rentable branche commerce opérée par Enedis qui fournit de l'électricité aux particuliers et aux entreprises.
Or l'objectif d'EDF, Arjuna, c'est de nationaliser la branche bleue pour ouvrir la branche verte aux investissements privés.
Exactement, un démantèlement en bonne et due forme de l'électricien français qui n'a pas manqué de faire dire à certains que l'objectif de ce plan était de nationaliser les pertes pour privatiser les profits. Car le moins que l'on puisse dire, c'est que la branche nucléaire de l'entreprise connaît ces dernières années de sérieuses déconvenues. En témoigne le nouveau revers subi par l'entreprise avec la construction de l'EPR de Flamanville. Après avoir préféré fermer les yeux sur les mises en garde de l'autorité de sûreté nucléaire, l'électricien français a finalement dû admettre la nécessité de reprendre 8 soudures sur son site nucléaire, repoussant encore la mise en service du site. Ainsi, le projet qui devait normalement durer 5 ans pour un budget total de 3,5 milliards d'euros s'étend désormais depuis près de 12 ans avec un coût qui a presque quadruplé. Mais si ces déboires industriels viennent encore ternir l'image d'une filiale qui devait être celle de l'excellence et de l'avenir, l'entreprise doit surtout faire face à une série de difficultés économiques qui ont fait exploser son endettement.
Celui-ci atteignait ainsi plus de 33 milliards d'euros en 2018.
Absolument, un chiffre qui devrait encore s'aggraver avec le mur d'investissement de l'ordre de 100 milliards d'euros qui attend l'entreprise pour mettre à jour son parc nucléaire d'ici à 2030. Mais EDF a également souffert de l'invraisemblable usine à gaz déployée pour favoriser la mise en concurrence d'un secteur ultra dominé par l'historique électricien. C'est ainsi le gouvernement Fillon qui en 2011 crée le mécanisme de l'ARENH qui oblige EDF à tenir à disposition de ses concurrents une partie de sa production nucléaire à prix coûtant. Mais ces derniers peuvent également se fournir sur le marché lorsque les prix y sont moins élevés, ce qui n'ont donc pas manqué de faire entre 2015 et 2016, notamment poussant EDF à brader sa propre production. Comme nous l'expliquions dans une précédente chronique, ce mécanisme a également eu pour conséquence de renchérir le coût de l'électricité pour les Français, l'objectif étant de ne surtout pas pénaliser les acteurs du privé et de respecter à tout prix la sacro-sainte concurrence imposée par Bruxelles. Car c'est bien du côté de l'Union qu'il faut chercher une partie de l'explication à cette crise.
C'est en effet la Commission européenne qui réclame depuis des années la fin du monopole de l'énergie en France.
Oui, et comme le rapporte Le Monde, ce mécanisme de l'ARENH avait été créé en 2011 pour convaincre la Commission du fait que le marché français était bien ouvert. En échange, la France pouvait conserver dans la même structure la production de l'électricité et la fourniture aux particuliers. 8 ans plus tard, il semblerait que cela ne suffise plus. Le démantèlement prévu de notre service public de l'énergie serait donc une nouvelle manière de convaincre la Commission de notre bonne volonté. En clair, une fois de plus, accepter de brader les biens stratégiques des Français au nom de la défense d'une prétendue concurrence libre et non faussée.
On se quitte avec Gang of Four, At Home is a Tourist. Merci beaucoup Jean-Pierre Lozato et Emeline Hatt de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Demain, nous nous plongerons dans l'histoire économique du voyage en compagnie de l'historien Sylvain Vénère. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur toutes les applications de podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.